Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce jeudi 13 octobre 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'ennemi est sur la défensive, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Deux Palestiniens, dont un nourrisson, ont été tués et deux autres blessés par les forces du régime sioniste lors de violents affrontements dans les territoires occupés. Et en Somalie, 50 éléments d'Al-Shabaab ont été tués lors d'une opération militaire dans le centre du pays. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a déclaré mercredi 12 octobre que les récentes émeutes dispersées dans plusieurs villes iraniennes ont été conçues par les ennemis comme une réaction maladroite, insensée et passive aux grands mouvements et aux progrès innovants de la nation iranienne. Lors d'une audience accordée le 12 octobre aux membres du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur de la République islamique d'Iran, l'Ayatollah Khamenei a averti les autorités du pays de ne pas laisser de tels petits incidents les distraire de leur principale fonction. Le guide suprême de la révolution islamique a déclaré « La nation iranienne a fait de grands pas en avant en peu de temps. La planification par l'ennemi des récents troubles en Iran est une mesure passive et non une initiative. Cela a été à 180 degrés opposé aux politiques de l'arrogance mondiale qui s'est vue obligée d'y réagir. Ainsi, certains milieux aux États-Unis, en Europe et ailleurs financent et commanditent les agitations. L'Ayatollah Khamenei a ajouté que les récents troubles ne sont pas quelque chose d'interne ni de spontané. Les campagnes de propagande, les influences intellectuelles, la provocation des émotions, des activités comme apprendre à faire des cocktails Molotov sont clairement des mesures entreprises par l'ennemi. L'Ayatollah Khamenei a déclaré que les inimitiés envers l'Iran se poursuivront sous diverses formes tant que le peuple iranien arborera le drapeau de l'islam et tant que les citoyens soutiendront la République islamique. La seule solution est de rester ferme, a-t-il souligné. Le leader de la révolution islamique a évoqué la participation des millions de jeunes iraniens à la marche annuelle d'Arbaïn en Irak et l'a qualifié de signe évident des croyances religieuses de la nation. Face à un tel mouvement et au progrès innovant de la nation iranienne, nos ennemis ont une réaction maladroite, insensée et passive en finançant et soutenant les émeutes, a déclaré le leader de la révolution islamique. Et d'ajouter, les personnes qui ont participé à ces émeutes sont soit des agents de nos ennemis, soit des personnes qui, sous émotion intense, accompagnent ces agents. Dans le cas du deuxième groupe, il faut procéder à leur orientation culturelle et quant au premier groupe, les responsables sécuritaires et judiciaires doivent accomplir leurs devoirs. S'adressant aux autorités iraniennes, le leader de la révolution islamique a déclaré qu'elle devait veiller à ne pas être distraite par ces incidents mineurs dans l'exercice de leurs principales fonctions sur les scènes nationales et internationales. Les constructions, les grands travaux exécutifs, une législation efficace, les grands travaux judiciaires et les questions importantes de politique étrangère ne doivent pas être mis de côté par ces incidents mineurs, a-t-il déclaré. Ailleurs, dans ses remarques, le leader de la révolution islamique a réitéré son appel antérieur aux autorités de faire la distinction entre les actes de vandalisme mineur et les grands rôles dans les émeutes. L'ayatollah Khamenei a conclu : Nous croyons aux promesses divines de victoire finale et nous avons la conviction que le Dieu nous accordera à tout instant son soutien. Le président iranien Ebrahim Raisi s'est rendu mercredi 12 octobre à Astana pour assister à la 6e conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie, CISA, soulignant l'importance de la coopération entre l'Iran et les pays asiatiques pour assurer la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. Le président Raisi a souligné que la coopération active avec les organisations régionales et transrégionales faisait partie de la politique étrangère de son administration. La coopération avec ces organisations est une bonne opportunité et peut renforcer la convergence, le voisinage et le multilatéralisme, a-t-il déclaré, ajoutant que la coopération avec des organisations telles que la CISA peut offrir à l'Iran l'opportunité d'utiliser l'infrastructure économique de l'Asie. Le 6e sommet de la CISA, Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie, se tiendra à Astana, la capitale du Kazakhstan, les 12 et 13 octobre, marquant le 30e anniversaire de l'initiative. Le porte-parole du ministère kazakh des Affaires étrangères a déclaré mardi que le sommet réunira les dirigeants de l'Azerbaïdjan, de l'Irak, de l'Iran, du Qatar, du Kirghizistan, de la Palestine, de la Russie, du Tadjikistan, de la Turquie et de l'Ouzbékistan. Le président biélorusse participera également en tant qu'observateur, tandis que la Chine et le Vietnam assisteront à l'événement au niveau des vice-présidents. Un commandant militaire iranien de haut rang a déclaré que la marine de la République islamique d'Iran prévoyait d'organiser un exercice naval conjoint avec la Chine, la Russie et un certain nombre d'autres pays dans la pointe nord de l'océan Indien dans un proche avenir. Le commandant de la marine iranienne, le contre-amiral Shahram Irani, a déclaré mercredi 12 octobre que le prochain exercice naval vise à renforcer les capacités de combat des forces iraniennes et s'inscrit dans le cadre de la diplomatie maritime afin d'assurer une sécurité durable. Il a noté que l'Iran avait invité un certain nombre d'États membres du symposium naval de l'océan Indien, ION, un forum visant à accroître la coopération maritime entre les États côtiers de la région de l'océan Indien, à participer à l'exercice conjoint. Les opérations de résistance armée en Cisjordanie ont connu un développement qualitatif ces derniers temps. Ce mercredi soir, 12 octobre, de violents affrontements ont opposé les Palestiniens aux militaires du régime sioniste dans le quartier d'Al-Issawiya, situé dans la ville occupée de Qods. Selon la chaîne d'information palestinienne Paltoday, d'intenses affrontements font rage dans tous les villages et différents quartiers de la ville de Qods occupée, notamment sur le passage du camp de Shafat, situé au nord-est de Qods. La police israélienne a presque perdu le contrôle de la situation. Lors des attaques contre des maisons des Palestiniens à Kaf Arab et à Silvan, situées au sud de la mosquée Al-Aqsa, les militaires israéliens ont fait usage des gaz lacrymogènes. À Kaf Arab, un nourrisson palestinien a trouvé la mort après avoir inhalé du gaz lacrymogène. Deux jeunes palestiniens ont été par ailleurs blessés par des soldats du régime sioniste à Bethléem, en Cisjordanie. Et Oussama Adawi, 18 ans, a été tué par l'armée israélienne à balles réelles dans la poitrine, dans le camp d'Al-Aroub, dans le sud de la Cisjordanie, ont annoncé des sources palestiniennes, citant le ministère de la Santé. Deux membres des forces de police du régime sioniste ont été par ailleurs blessés dans le quartier d'Al-Issawiya. Le chef d'état-major somalien, Adwa Yusuf Ragge, a annoncé ce mercredi 12 octobre la mort de 50 éléments du mouvement terroriste Al-Shabaab lors d'une opération militaire dans le centre du pays. Dans une déclaration à la radio de l'armée, le chef d'état-major a déclaré que des unités de l'armée, en coopération avec les habitants locaux, ont mené une coopération militaire à proximité de la ville de Yasuman, dans la région de Hiran, au centre de la Somalie. Youssouf Raghi a ajouté que l'armée avait anticipé une attaque du mouvement terroriste qui aurait été planifiée mercredi matin, visant les habitants de la ville de Yasuman. Cela a conduit au déclenchement de violents affrontements entre l'armée et le mouvement terroriste. Le chef d'état-major a confirmé que l'opération militaire avait fait 50 morts parmi les éléments d'Al-Shabaab. Le ministère somalien de l'information a pour sa part déclaré que 3 soldats de l'armée somalienne avaient été tués lors de l'opération militaire préventive contre Al-Shabaab. Cette opération a eu lieu sur fond d'opérations sécuritaires menées dans certaines régions du sud et du centre de la Somalie par les forces gouvernementales en coopération avec la participation des milices claniques contre les éléments terroristes Al-Shabaab. Depuis plusieurs années, la Somalie mène une guerre contre le mouvement Al-Shabaab, un mouvement armé idéologiquement affilié à Al-Qaïda qui a été fondé au début de 2004 et qui a revendiqué de nombreuses opérations terroristes qui ont fait des centaines de morts dans le pays. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a fait part mercredi à Alger de son optimisme de voir la crise libyenne trouver une issue au courant de l'année 2023. Nous souhaitons que 2023 soit l'année du règlement de la crise libyenne et marquera la fin de la tragédie du peuple libyen, indiqué Abdelmadjid Tebboune dans une déclaration conjointe avec le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Younous Al-Menfi, au sortir de leur entretien. Nous sommes optimistes car tous nos amis occidentaux et nos frères sont aujourd'hui convaincus que la crise libyenne ne saurait trouver une voie de solution sans l'organisation des élections dans le respect de la volonté des Libyens, sans ingérence étrangère aucune, a-t-il affirmé. Le président algérien a assuré que son pays était entièrement mobilisé pour la prospérité du peuple libyen et la stabilité de la Libye et appuierait le mode de gestion choisi par les Libyens lors de la nouvelle étape. Pour sa part, le président du conseil présidentiel libyen s'est félicité du noble soutien de l'Algérie aux frères libyens, espérant promouvoir un règlement de la crise dans son pays à travers une position arabe unifiée lors du prochain sommet arabe qui aura lieu les 1er et 2 novembre à Alger. Le responsable libyen est arrivé mardi soir à Alger pour effectuer une visite de 2 jours. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Nasrallah, Israël a perdu. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a tenu la parole mardi soir, 11 octobre, de manière inopinée et a prononcé ce que les médias sionistes qualifient de discours de victoire du Hezbollah. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a mis l'accent sur la nécessité de l'unité entre les musulmans, tout en appelant à ce que les divergences ne soient ni exagérées ni hyperbolisées. Le peuple du Yémen a montré son amour pour le messager de Dieu, paix sur lui et ses descendants, avec tous dont il dispose, et a marqué une très grande victoire. N'empêche que l'existence du régime sioniste tourne la joie de cette grande victoire en amertume, a-t-il déclaré. Plus loin dans ses propos, Nasrallah est revenu sur la raison pour laquelle la semaine de l'unité intermusulmane avait été baptisée de cette façon par le fondateur de la révolution islamique, l'imam Khomeini. Cette semaine célébrée par tous les musulmans efface les moindres divergences entre eux, y compris celles sur la date de la naissance du grand prophète. Un prophète qui a ramené l'humanité à la lumière, l'a fait sortir de l'obscurité. Un prophète qui a appelé à adorer le Dieu unique et qui a interdit l'effusion du sang, la violation des droits des gens, soit tout ce que l'Occident d'aujourd'hui permet et prône. En Occident, le nombre d'enfants nés hors les liens du mariage ne cesse d'augmenter et on prône sans cesse l'homosexualité. Et tout ceci relève du même gentilisme, contre quoi le grand prophète de l'islam s'est battu sa vie durant, a expliqué Nasrallah. Il a abordé ensuite la question de la démarcation des frontières maritimes entre le Liban et la Palestine occupée d'Israël et a souligné « Les heures décisives sont devant nous. En tant que composante de la nation libanaise, nous nous attendons à connaître la position officielle de notre président et celle de l'ennemi sioniste concernant les négociations. Pour nous, l'accord ne sera conclu qu'une fois que les délégations se seront rendues à Ras al-Naroura pour y signer l'accord. Ces dernières semaines, nous avons assisté à une réelle cacophonie au plus haut sommet de l'entité sioniste. Ces divergences continuent à exister au sein du cabinet sioniste actuel. Aussi, nous devons être prudents. Les négociations menées ces derniers jours ont été bien difficiles. Le Hezbollah a insisté dès le début qu'il se tiendrait aux côtés du gouvernement libanais. Cet accord à venir devrait répondre aux exigences du gouvernement libanais et c'est uniquement à cette condition que nous n'aurons rien à redire. La vigilance devra donc être de mise. Saïd Hassan Nasrallah a ensuite souligné que la révision de l'accord sur la démarcation des frontières maritimes devrait être menée dans un esprit patriotique. Ce qui est en train de se produire au Liban est un tournant. Pour la première fois dans notre histoire, nous vivons une nouvelle expérience où les responsables et les présidents libanais ont coopéré ensemble et la résistance les a soutenus. J'en suis convaincu, quand la Palestine sera libérée de l'occupation sioniste, il n'y aurait plus aucun différend avec elle sur les frontières maritimes. Et en ce jour, notre mer s'étendra jusqu'à Gaza. Plus loin dans ses propos, le secrétaire général du Hezbollah libanais est revenu sur un été particulièrement riche en péripéties anti-Israël. Au contraire de l'entité sioniste, le Hezbollah n'a besoin ni d'exercices militaires ni de manœuvres. Le Hezbollah a voulu faire comprendre à l'ennemi sioniste qu'il tiendra sa parole et qu'il est sérieux. Après l'assaut de 3 drones du Hezbollah le 2 juillet contre Karish, le mouvement n'a eu plus besoin de refaire le coup. Ces derniers mois, les combattants de la résistance libanaise ont redoublé de préparation et d'efforts pour se maintenir prêts à passer à l'acte. Au fait, le pétrole et le gaz dont dispose le Liban ravivent l'espoir de notre peuple pour sortir de la crise économique et l'ennemi israélien a largement plus peur de la guerre que les Libanais. Or, ce qui importe pour la résistance libanaise, c'est surtout le fait de pouvoir extraire le pétrole et le gaz qui appartiennent au Liban. Ce discours que les médias sionistes ont qualifié mercredi matin, 12 octobre, de discours de victoire du chef du Hezbollah, Nasrallah ne l'a pas fini sans évoquer évidemment l'actualité en Cisjordanie où la résistance palestinienne a mis au pas, au bout de 8 mois d'opération commando croisée, l'armée sioniste. Il va sans dire que les évolutions à Gaza et en Cisjordanie ont pris de court le régime sioniste. Aujourd'hui, en Cisjordanie, c'est l'intifada des armes contre Israël, car aucun jour ne se passe sans qu'il n'y ait d'attaques et d'opérations anti-sionistes. C'est le message que nous envoie la Cisjordanie Erots. L'ennemi israélien croyait avoir réussi à mater la résistance en Cisjordanie. Erreur. Aujourd'hui, c'est désormais la révolte des mitraillettes, des colis explosifs à laquelle ils s'affrontent. Ce que nous voyons en Cisjordanie, c'est le courage et la créativité à l'état pur. Cette résistance-là exige qu'on lui soit solidaire, politiquement, médiatiquement et logistiquement. Tout en louant la décision du Hamas de reprendre ses relations avec la Syrie, le secrétaire général du Hezbollah libanais a reconnu que la démarche était loin d'être facile à entreprendre. Mais le Hamas l'a entreprise car le but de cette décision juste, courageuse et sage est de consolider les liens au sein de la résistance, une unité qui génère la puissance et protège les peuples.
à tous et bienvenue sur les plateaux de Press TV à Téhéran. Aujourd'hui, un sujet, le sujet de l'énergie, encore une fois, puisque ces derniers mois, tout tourne autour de ça, mais surtout, en fait, du rapprochement entre le Maghreb et l'Europe. Nous avons, comme d'habitude, préparé un reportage pour notre débat. Vous connaissez le principe, un reportage, les invités qui viennent juste après, et donc des questions-réponses obtenues grâce à ce débat. Donc tout de suite, je vous propose donc de regarder le reportage que nous avons préparé sur le sujet de l'énergie de l'Union européenne et de l'Afrique du Nord.
L'UE cherche à renforcer son commerce de gaz avec l'Algérie. Le commissaire européen à l'énergie, Kadri Simpson, se rend à Alger pour co-présider la 4e réunion annuelle de haut niveau du dialogue UE-Algérie sur l'énergie, tandis que le Premier ministre français rencontre son homologue algérien dans le pays. Alors que la guerre en Europe de l'Est continue de s'intensifier et que l'inflation des prix des carburants et des matières premières continue d'augmenter, les 27 États membres de l'UE poursuivent leurs efforts pour déconnecter l'énergie de la Russie de Vladimir Poutine. C'est ce que reflète le plan Repower EU adopté par la Commission européenne au début de l'été, qui appelle à travailler avec des partenaires internationaux sur des partenariats à long terme et mutuellement bénéfiques qui stimulent les énergies renouvelables et augmentent l'efficacité énergétique. En témoigne la relance du dialogue énergétique de l'UE avec l'Algérie, qui devrait devenir le partenaire gazier du continent pour contrebalancer la dépendance vis-à-vis de Moscou. Dans cette optique, la commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson, s'est rendue lundi à Alger, la capitale algérienne, où elle restera jusqu'à mardi pour renforcer la relation énergétique et revoir l'accord de partenariat stratégique qui les unit depuis 2013. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la Commission européenne pour diversifier l'approvisionnement énergétique de l'UE au-delà des combustibles fossiles russes et pour renforcer les relations énergétiques avec des partenaires fiables, a indiqué l'exécutif européen dans un communiqué. Ces efforts coïncident avec la 4e réunion annuelle du haut niveau du dialogue énergétique Algérie-UE, co-présidée par la commissaire européenne et le ministre algérien de l'énergie, Mohamed Arkab, qui devrait aborder des questions telles que le développement des investissements pour l'exploration et l'extraction des hydrocarbures, les nouvelles perspectives de partenariat dans les industries du gaz et de l'hydrogène et la coopération dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Tout cela se passe alors que le pays d'Afrique du Nord, 10e producteur mondial de gaz et grand exportateur vers l'Europe, conclut de nouveaux contrats avec ses principaux acheteurs d'énergie, l'Italie d'abord, l'Espagne ensuite. Pendant ce temps, le Premier ministre français Elisabeth Borne rencontre son homologue algérien Ayman Ben Abderrahman pour ouvrir officiellement un forum d'affaires franco-algérien qui espère ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre Alger et Paris afin de mettre fin à plusieurs mois de tensions diplomatiques.
Voilà notre reportage fini. Maintenant, bienvenue à nos invités. Monsieur Luc Michel, géopoliticien de Bruxelles, bienvenue sur notre plateau. Ensuite, notre deuxième invité, monsieur Arnaud Develet, juriste international. Bonjour monsieur maître Arnaud Develet, bienvenue également sur notre plateau.
Oui, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe, téléspectateurs, et bonjour à monsieur Michel.
Merci à vous. Alors, vous avez deviné, hein, le sujet tourne encore sur l'énergie. Hein, ces six derniers mois, on ne parle que de ça. Mais ces problèmes et puis ces réseaux ont commencé il y a 10 ans, puisqu'il y a 10 ans, l'Union européenne envisageait en fait d'inclure le Maghreb à l'Union européenne. Une des raisons, bien entendu, a été l'énergie avec l'Algérie, mais pas seulement, à l'immigration, au fait que la population européenne est vieillissante. Il y avait des solutions qui avaient été apportées à l'Union européenne il y a 10 ans. Aujourd'hui, 10 ans après, On voit l'Union européenne faire des pieds et des mains pour aller en Algérie pour des raisons énergétiques, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Maître Develé?
Je pense que l'Union européenne vit un peu dans sa bulle et prétend, si je puis dire, faire abstraction des évolutions géopolitiques des 10 dernières années, pour le coup, où le Maghreb est une région qui est certainement pas la moins importante pour l'Union européenne, a subi des événements qui l'ont complètement reconfiguré et qui, pour ces pays qui encore restaient, si je puis dire, dans leur configuration d'alors, il y a dû y avoir des ajustements politiques, géostratégiques, qui font que maintenant, en dialogue, alors que ce soit le dialogue à l'échelle de l'Union européenne ou le dialogue à l'échelle bilatérale entre la France et l'Algérie, pour ne citer qu'elle, fait que il y a beaucoup de méfiance, en tout cas, de la part d'Alger, je pense qu'il convient aussi de prendre en compte que Alger se voit un peu comme une tête de pont de l'axe de la résistance dans la région, qu'elle est sous pression quelque part au travers des accords dits d'Abraham entre le Maroc et l'entité sioniste d'un côté, avec cette construction donc de bases de renseignement, d'écoute, de bases de drones aussi. Donc on peut imaginer que c'est certainement pas quelque chose qui va œuvrer au bon déroulement des relations bilatérales entre Rabat et Alger. De l'autre côté, vous avez la Libye qui se dirigeait vers un cycle conformément à la déclaration de Berlin où il devait y avoir des élections présidentielles suivies d'élections parlementaires pour des raisons qui restent encore un peu mystérieuses et obscures, cela n'a pas eu lieu. Et donc, on assiste même quelque part à une recrudescence des factions en présence en Libye, ce qui crée par exemple un environnement d'autant plus instable. Et dans ce contexte-là, c'est difficile d'imaginer que l'Europe, et la France en particulier, puisse quelque part arriver avec, je parle de la première ministre Elisabeth Borne, avec moitié du gouvernement dans ses bagages, en espérant quelque part, je cite, reprendre un partenariat de bon aloi entre les deux pays, mais en faisant fi encore une fois d'un monde où au niveau géopolitique la situation évolue extrêmement rapidement, quoi.
Il serait arrivé ce genre d'action et de réaction de l'Union européenne et du gouvernement français, puisque ce sont les deux enjeux de cette semaine. Vous pensez que ça arrive 10 ans trop tard?
Je pense surtout que, encore une fois, ça fait fi des réajustements géopolitiques dont le Maghreb n'est pas déconnecté. Intégrer ce politique énergétique, partenariat en fonction aussi, dirais-je, des grands axes. Et ce n'est un seul que l'Algérie, en ce qui concerne peut-être pas les capitales européennes qui sont d'offusquer un petit peu leur. On peut penser qu'il y a qui ont un problème au gouvernement d'Alger, qui considèrent que le gouvernement n'est pas, si je puis dire, le doux. Ne montre pas la coopération, et ce sur tout un tas de. Donc, d'ailleurs, l'un de ces dossiers, c'est sa non-reconnaissance, par exemple, qu'on le veuille ou non, quand même un marqueur essentiel entre l'Union et des pays qui adhèrent à ces principes.
Merci, Maître.
Je pense beaucoup de pour pas grand-chose. Je pense qu'Alger joue la carte de la diplomatie au sens bien compris du terme, qu'il pourra y avoir éventuellement des accords sur des issues, sur des questions, des dossiers ad hoc, précis. De là à imaginer quelque chose comme Nicolas Sarkozy l'évoquait à l'époque avec cette union euro-méditerranéenne, je pense qu'on est dans un conte pour enfants.
L'autre question qui avait été envisagée cette semaine, c'est les propos de Mme Borne concernant les visas. Là encore, on peut dire que c'est une vision qui date de Mathusalem, parce qu'à l'heure actuelle, on sait qu'en France, il y a beaucoup d'enfants d'immigrants qui sont retournés sur les terrains de leurs parents, c'est-à-dire au Maroc, en Algérie, en Tunisie, retournent donc dans leur pays d'origine, on va dire, bien que la France est leur pays, techniquement, parce qu'ils sont complètement français, mais il y a une sorte de considération du visa qui date d'il y a 20 ans, 30 ans, là où il y a eu un flux immigrant d'Afrique du Nord important, mais que là, ça n'est plus vraiment le cas. Donc, encore une fois, est-ce que ça serait pas un sujet de parler de politique pour un petit peu semer l'embrouille, en fait, ne pas réfléchir sur des questions extrêmement sérieuses, parce que est-ce que l'Afrique du Nord, à l'heure actuelle, est vraiment à la recherche de visa, vu qu'il y a un système inverse à l'heure actuelle en France, où beaucoup d'enfants d'immigrants partent de la France parce qu'ils en ont marre de ne pas être traités comme des vrais Français.
Bah écoutez, à votre question, je rappellerai juste à nos auditeurs que l'Union européenne a le taux de croissance économique le plus anémique, et cela ne date pas d'hier, ça remonte à au moins une vingtaine d'années. Cet assemblage un peu forcé, cette espèce de béton, n'est pas du tout économiquement conçu pour permettre aux différentes expressions économiques qui caractérisent les États membres de pouvoir prospérer, de pouvoir faciliter l'exportation et donc de pouvoir créer les conditions nécessaires qui créeraient des emplois et ou des filières et donc serait un lieu qui serait attractif pour les gens de manière générale, à moins que vous veniez d'un pays en guerre où là, bon, effectivement, l'Europe semblait un havre de paix, mais pour les gens qui ont beaucoup de diplômes, et il y a beaucoup de gens du Maghreb qui sont extrêmement diplômés, l'Europe apparaît de moins en moins comme, si je puis dire, l'Eldorado. Et j'ajouterais à ça que la situation sur un plan géostratégique et l'implication plus ou moins avérée des pays d'Europe dans l'exacerbation du conflit en Ukraine, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau juridique, puisque cela fait d'eux des co-belligérants essentiellement, fait que beaucoup d'entre eux se disent « mais on risquerait de se retrouver ciblés pour peu que la Russie n'ait pas les dirigeants qu'elle a, à savoir des gens qui réfléchissent quand même aux conséquences et qui ne se laissent pas, qui ne succombent pas aux provocations. » On pourrait penser que pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, la situation fait que au niveau même de la sécurité, l'Europe devient de plus en plus un endroit où on peut imaginer que ces vieux démons vont ressurgir et qu'un conflit à l'échelle continentale pourrait avoir lieu. Et ça, beaucoup de je parle de Français, pour le coup, de Français récents, commencent à réaliser ça. Et si vous lisez les discussions sur les réseaux de la diaspora algérienne, marocaine, tunisienne qui vit en France, effectivement, vous aviez raison de souligner, beaucoup d'entre eux, surtout parmi les plus jeunes, considèrent sérieusement, comme ils disent eux-mêmes, rentrer au bled. Hein.
Ouais, au moins, il y aura... Et d'ailleurs, quand on reparle de la situation ukrainienne, il y a ces derniers jours, surtout la semaine dernière, le fait que le pont de Crimée avait été partiellement détruit. Les images étaient catastrophiques, mais d'après mes informations, hier soir, le pont s'est réouvert, donc il est redevenu disponible aux véhicules. Donc, encore une fois, c'était une exagération de la situation, bien que Poutine l'ait pris extrêmement sérieusement, hein, puisqu'il a reconvoqué tous ceux qui doivent prendre une décision sur le terrain ukrainien pour répondre à ce genre d'actes de guerre, extrêmement importante, parce que sans ce pont, énormément de personnes vivent sous les besoins de la Russie. Donc même humainement parlant, c'est s'en prendre à des choses matérielles extrêmement importantes comme le chauffage, le charbon, etc. C'est quand même pas seulement un pont stratégique pour la Russie, c'est également pour le peuple de Crimée une situation qui aurait pu être catastrophique si ce pont avait réellement été détruit.
Oui, absolument, mais nonobstant la nature des dégâts, et vous l'avez souligné, le trafic a repris essentiellement le même jour, hein, à 20h. Bon, il y aura des travaux nécessaires, ça devrait prendre pas plus d'un mois, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais c'est surtout les implications, si vous voulez, puisque c'est une infrastructure avant tout qui dessert, comme vous l'avez souligné encore une fois, les besoins des civils, et donc qui n'a pas du tout cette dimension militaire qui justifierait ce genre d'opération. Et ce n'est pas, malheureusement, la première, ni j'ai bien peur la dernière fois, que Kiev franchie de toutes les règles, puisqu'elle dit, elle prétend avoir été victime d'une agression, donc ça veut dire qu'on se trouve dans un conflit traditionnel, juridiquement. Et donc il y a des règles qui s'appliquent, les conventions de Genève, pour ne citer qu'elles déjà.
Vous-même, vous l'avez dit, l'Afrique, et surtout l'Afrique du Nord, regarde donc ce qui s'y passe. Donc ce genre d'acte, forcément, rentre en jeu dans ce genre de coopération voulue par l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez que l'Algérie pourrait dire à l'Union européenne, bon, outre la France, qui ont quand même des liens importants, donc il y a quand même une coopération économique qui existe depuis très longtemps, donc ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Mais par rapport au futur de l'Union européenne et de l'Algérie qui un peu va déterminer également du Maghreb lui-même. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans les jours prochains? L'Algérie va faire un pas vers l'Union européenne ou va rester en stand-by en attendant de voir les évolutions économiques?
Écoutez, si vous partez du principe que l'Union européenne, en se coupant du gaz russe, essentiellement n'a pu substituer ses manques d'approvisionnement que par, jusqu'à présent en tout cas, elle ne s'est pas encore mise en place, puisqu'il faut construire les méthaniers, les ports pour pouvoir disposer des infrastructures nécessaires pour regazéifier le gaz de schiste américain. Ce fameux gaz de schiste américain est vendu pour 4 fois le prix et pour seulement 10% des besoins dont l'Europe avait besoin, si on fait abstraction donc des parts de gaz russe. Donc l'Algérie forcément va essayer de c'est un état des règles, pas des émotions, donc ils vont essayer de voir si il y a possibilité de faire entrer des devises, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'ils ont les capacités pour pouvoir fournir l'Union européenne au sens large? On a vu durant la visite d'Emmanuel Macron au mois d'août dernier que les Italiens étaient passés juste avant et leur avaient damé le pion, si je puis dire. Donc, il n'y avait pas de gaz. Donc, c'est une situation où c'est difficile d'imaginer que l'Algérie puisse, encore une fois, enfin, en tout cas, en elle-même, subvenir aux besoins des Européens.
Est-ce qu'ils vont seulement accepter? C'est ça, vraiment la question, parce qu'entre il y a 10 ans, oui, quand on envisageait de faire venir le Maghreb en Union européenne, en disant que c'était plus justifié que même la Turquie, ou même que l'Est de la Russie, là, à l'heure actuelle, 10 ans après, l'Union africaine, c'est-à-dire les pays d'État africains, souhaitent s'unir. On voit des mouvements partout, que ce soit le nord de l'Afrique ou le sud de l'Afrique, l'Égypte qui se met d'accord avec des universités dans le sud de l'Afrique, le Maroc, pareil. Il y a quand même des coopérations qui se font pour l'instant d'un point de vue universitaire sur toute l'Union africaine. Donc, est-ce que l'Algérie va regarder de ce côté-là du monde ou de l'autre côté du monde qui est peut-être éventuellement l'avenir, finalement, au niveau international, puisqu'on dit que l'Asie s'est fait, le véritable avenir n'étant pas le continent africain?
Si, si, absolument. Et vous faites bien de le souligner, puisqu'on voit que le continent africain, au travers de ses institutions, s'efforce de prendre maintenant de plus en plus la position que le colonialisme à papa, c'est fini, quoi. Et que dans ce contexte-là, si on assiste à des pressions sur certains de ces pays pour, par exemple, condamner, je cite, l'agression russe en Ukraine, 82% de la population mondiale, si on ajoute les pays d'Asie, se sont abstenus de ces résolutions. Donc, quelque part, cette soi-disant communauté internationale dont on nous bassine depuis au moins 25 ans maintenant, se réduit à une quinzaine de pays qui représentent 700 millions de personnes. Et dans ce contexte-là, qui en plus de ça, si on prend encore une fois l'Union européenne, ne produit rien, n'exporte rien, à l'exception de l'Allemagne, mais l'Allemagne va se retrouver confrontée à une récession très très importante. D'ailleurs, les entreprises, beaucoup d'entreprises allemandes sont en train maintenant de déménager leurs sièges, leurs opérations, ironiquement aux États-Unis, parce que c'est en fait, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que les États-Unis sont, de par leur influence et leur façon d'imposer des politiques et des positionnements politiques à Bruxelles, sont en train de forcer l'Europe à se désindustrialiser et à devenir complètement vassalisée aux États-Unis, quelque part. Donc, si j'étais âgé, ça ne m'empêcherait pas de regarder, encore une fois, dossier par dossier, parce que c'est la façon de gérer la politique et la diplomatie de manière générale. Mais in fine, il ne faut pas oublier qu'il y a des grands axes qui sont en train de se redessiner, qui quelque part ne sont pas comparables à ceux de l'ancienne guerre froide, mais où on voit effectivement un bloc atlantiste qui se retrouve acculé, qui se retrouve pour la première fois depuis au moins 200 ans, certains disent 500 ans, dans une situation qui n'est pas une situation de domination, parce que ce sont des rapports de domination tout cela.
Excusez-moi de vous interrompre, c'est un peu pour conclure. Concernant le comportement de Mme Borne en arrivant en Algérie, et beaucoup de gens ont critiqué encore une fois son discours, la manière, surtout les termes employés. C'est pas forcément l'intérieur de son discours qui est intéressant, mais surtout la manière dont ça s'est exprimé. Beaucoup de gens se sont retrouvés fâchés ou peu satisfaits en tout cas de sa manière de s'exprimer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, en fait ? Est-ce que c'est encore une fois la même situation que ce que vous venez de décrire, une vieille manière de s'exprimer vis-à-vis d'une ancienne colonie ?
Oui, tout à fait. On s'aperçoit que les Européens, en tout cas les Français en particulier, n'ont pas changé de logiciel. Ils ne semblent pas réaliser que le monde est en train d'évoluer à une vitesse vertigineuse et que leurs anciennes colonies mènent leur propre barque. Et si cela veut dire quelque part rappeler certaines vérités qui dérangent, et ben voilà, c'est comment voulez-vous avoir quelque part des relations en substance qui s'inscrivent dans le long terme si en ce qui concerne les termes de référence vous êtes toujours obligé de quelque part remettre les dirigeants français dans le bon sens par rapport au choix des mots et à la perception des rapports bilatéraux. De toute évidence, l'Algérie n'a certainement pas besoin de la France autant que la France a besoin de l'Algérie, ne serait-ce que sur le volet énergétique. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais qui doit, quelque part, rentrer dans le nouveau logiciel européen et français en particulier.
Merci, Maître Develay. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat donc, qui concernait donc, l'Algérie et son futur et la coopération qui pourrait y avoir encore ou exister encore avec l'Union européenne et la France. C'est ici que notre débat se finit. Je vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvez-nous pour un prochain sujet dans les prochains jours. Et je vous dis au revoir à partir des studios de Téhéran.
De l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 23e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali béni soit-il. À propos de ceux qui ne se sont pas rangés à ses côtés pendant la bataille de Jamal, sans se mettre du côté de ses ennemis, l'imam Ali béni soit-il dit « Ils ont méprisé la vérité et n'ont pas soutenu le mensonge. » Dans cette maxime de la voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali béni soit-il, premier imam des chiites, a décrit l'attitude de ceux qui ne l'ont pas accompagné pendant la bataille de Jamal. La bataille de Jamal, qui a eu lieu en l'an 36 de l'Hégire, 656 du calendrier grégorien, aux alentours de Bassora, était la première bataille de l'époque du califat du vénéré Imam Ali, béni soit-il. La guerre a été organisée par Aïcha, l'épouse du prophète, ainsi que Talha et Zubayr, deux compagnons du prophète de l'islam, contre l'imam Ali, alors calife des musulmans. Prétendant que l'imam Ali, béni soit-il, avait participé à l'assassinat du calife précédent, Osman, ils démarrèrent ce combat pour venger sa mort. Cette bataille était le premier combat interne à la communauté musulmane. L'imam Ali, béni soit-il, a gagné cette bataille. Talha et Zubayr ont été tués et Aïcha a été ramenée à Médine. Un an avant la bataille, en l'an 35 de l'Hégire, 655 du calendrier chrétien, la majorité de la communauté musulmane a insisté à élire le vénéré imam Ali, béni soit-il, comme leur calife. Talha et Zubayr, deux compagnons du prophète, ont demandé à l'imam Ali de leur confier le califat de Bassora et celui de Koufa, ou de l'Irak et du Yémen. Mais l'imam ne les a pas vus méritants. Et il n'a pas accepté leur demande. N'ayant eu ni le califat, ni le gouvernement d'une province, Talha et Zubayr demandèrent à l'imam Ali, béni soit-il, l'autorisation d'aller à la Mecque. Mais l'imam Ali savait qu'ils étaient en train de conspirer contre le califat et les intérêts de la communauté des musulmans. Bien que les deux hommes avaient prêté serment d'allégeance au calife, ils ont justifié le manquement à leur parole et à leur allégeance en prétendant qu'ils avaient prêté allégeance avec l'imam Ali, béni soit-il, sous la force et la crainte. Talha et Zubayr sont partis enfin pour la Mecque et y ont rencontré Aïcha. Ils lui ont demandé de se soulever contre l'imam Ali, béni soit-il, en prétendant qu'il avait participé à l'assassinat de l'ancien calife. Aïcha a accepté leur demande. Aïcha croyait qu'il fallait aller vers Médine et y commencer le combat. Mais ils se mirent finalement d'accord pour aller à Bassora, car ils n'avaient pas la capacité de confronter et combattre les gens de Médine. En outre, Talha et Zubayr avaient des partisans à Bassora. Ils purent enfin réunir 3000 soldats, dont 900 qui étaient des gens de Médine et de la Mecque. Lorsque l'imam Ali, béni soit-il, a été informé de l'intention d'Aïcha, Talha et Zubayr, il a demandé le secours aux habitants de Médine et ils ont commencé ainsi à se préparer pour le combat. Arrivé à Bassora, l'imam Ali, béni soit-il, a campé dans un endroit qui s'appelait Zawiya. Après quelques jours, il entra à Bassora et deux groupes se rencontrèrent. L'imam Ali, béni soit-il, n'avait pas envie de commencer la guerre. Pendant 3 jours, il a envoyé des lettres aux insurgés pour les dissuader de faire la guerre. Dans une lettre, qu'il a envoyé à Talha et Zubayr, l'imam Ali béni soit-il, a indiqué plusieurs sujets. La légitimité de son gouvernement et la prestation d'allégeance des musulmans avec lui. La bataille n'a duré qu'une seule journée. À la fin de la journée, l'armée des insurgés se mit à s'enfuir. Talha et Zubayr ont été tués. Aïcha a été ramenée à Médine.